Vous écoutez KTO Radio, il est 7h. L'invité de la matinale. KTO Radio.
En novembre dernier, la Conférence des évêques de France publie un modèle de charte pour l'accompagnement spirituel. Sur les recommandations émises par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, charte que chaque évêque s'est engagé à reprendre et publier cette année pour son diocèse. Dans un contexte de sensibilisation accrue au risque d'abus ou d'emprise, à quel besoin cette charte répond-elle? Notre invitée est sœur auxiliatrice, chargée d'accompagnement et de formation des accompagnateurs spirituels au Manresse, le centre spirituel jésuite d'Île-de-France, également professeur émérite aux facultés Loyola Paris. Sœur Sylvie Robert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio à KTO Radio. Alors, avant d'évoquer cette charte, un mot, et sur la formation également des accompagnateurs, un mot pour définir l'accompagnement spirituel, à quoi ça sert?
Alors, très brièvement, l'accompagnement spirituel, c'est la possibilité offerte à quelqu'un qui veut vivre toute sa vie en relation avec le Christ, la possibilité de pouvoir parler avec quelqu'un, parler de ce qu'il vit et avoir un retour, être aidé à suivre le chemin que le Seigneur trace avec lui.
Et à qui c'est destiné? C'est forcément pour une personne laïque qui a besoin de discernement dans sa foi?
Ah non, c'est pour tout chrétien. Et de même que les accompagnateurs peuvent être et accompagnatrices peuvent être donc des hommes ou des femmes, religieux, religieuses, laïques, prêtres.
Et les personnes accompagnantes, des prêtres peut-être également aussi?
Oui, aussi des prêtres, bien sûr, mais c'est pas l'ordination qui transforme quelqu'un en accompagnateur automatiquement.
Alors, on parlait de cette charte établie par la Conférence des évêques de France, dans un contexte, on l'a dit, sensibilisation au risque d'abus ou d'emprise. Que nous dit cette charte?
Alors, la charte définit l'accompagnement spirituel et indique les pratiques qui sont importantes. Justement, elle a été préparée en écoutant des victimes et en prenant en compte ce qui avait pu être déviance, mais elle présente ce qu'est l'accompagnement spirituel. Et en fait, elle donne des points de repère. C'est d'ailleurs très précisément indiqué au début, un cadre de référence ecclésiale. Voilà, et ça c'est très important, parce que l'accompagnement spirituel, il se vit à deux personnes, un accompagnateur et un accompagné. Et donc c'est une relation qui est délicate, parce que c'est une relation qui est à deux, donc privée. Il n'y a pas de contrôle, entre guillemets. La seule personne qui en est témoin, c'est la personne accompagnée. C'est une relation confidentielle. Et donc, la personne qui parle de sa vie, elle livre une certaine intimité. Alors, évidemment, il peut y avoir du coup le risque d'intrusion ou de la part de l'accompagnateur ou le risque de la part de l'accompagné d'attente extrêmement forte. C'est aussi une relation qui est dissymétrique parce que l'accompagnateur accompagne l'accompagné, mais l'accompagné n'accompagne pas l'accompagnateur. Mmh. Et donc là aussi, il peut y avoir un risque d'emprise ou bien de dépendance chez l'accompagné. Et puis c'est une relation interpersonnelle. Et donc comme dans toute relation interpersonnelle, il y a des interférences plus ou moins conscientes. Voilà.
On comprend la complexité de la relation entre un accompagnant et un accompagné.
Oui.
Il
n'y
avait aucune charte, aucun guide émis par l'Église en France sur l'accompagnement spirituel avant cette charte?
Non, il y a des textes spirituels depuis la tradition des Pères du désert, donc il y a très longtemps. Mais en fait, il n'y avait pas de charte. Et alors, l'intérêt qu'il y ait une charte, c'est précisément de resituer dans le domaine ecclésial cette relation d'accompagnement. Ça permet aussi, parce qu'elle est adressée à la fois à l'accompagnateur et à la personne accompagnée, et ça permet aussi de repréciser un peu ce que c'est que l'accompagnement. Parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes qui demandent un accompagnement spirituel, qui croient demander un accompagnement spirituel, mais en réalité, elles attendent une écoute, elles veulent briser une certaine solitude, et on n'est pas directement dans le cadre de l'accompagnement spirituel.
Vous l'abordez effectivement dans pas mal de diocèses ou même des centres spirituels, il y a de plus en plus de demandes, mais ce que vous dites, c'est que ce ne sont pas forcément des demandes d'accompagnement spirituel. Comment vous expliquez en tout cas cette augmentation des demandes ?
Je pense que c'est essentiellement parce que dans nos sociétés, il y a beaucoup de solitude, il y a un besoin de parler, il y a aussi une perte de repères pour un certain nombre de personnes. Et puis, je dirais, il y a le bouche à oreille. Par exemple, chez des plus jeunes, ça joue beaucoup. Des jeunes qui se disent « Ah bon, toi, tu as un perspi hein ?» Un accompagnateur spirituel, eux, ils disent « Un perspi. Ah bon, ben moi, je voudrais en avoir un aussi. » Enfin, vous voyez, c'est tout un tas de phénomènes comme cela, mais qui brouillent aussi un peu les pistes, quelquefois. Et donc, il y a toujours à discerner si une demande est véritablement une demande d'accompagnement spirituel, c'est-à-dire d'être aidé à avancer sur son chemin en relation avec le Seigneur.
Et revenons-en à la formation, parce que vous vous occupez de la formation au Manresse des accompagnateurs spirituels. Comment devient-on un accompagnateur ? Est-ce un appel, une mission d'église ? Et qui discerne et valide cette mission ?
Bon, alors... dans les formations, pour se former à l'accompagnement spirituel, il faut être envoyé. C'est pas quelqu'un qui dit moi ça m'intéresse, ça me plaît, parce que justement là il y aurait le risque justement de d'accentuer le côté privé et puis satisfaction de l'accompagnateur. Donc pour une formation, il faut être envoyé par une instance diocésaine, religieuse, un service quelconque. Voilà. Bon. Ça, c'est la première condition indispensable à laquelle on ne pense pas toujours. Mais l'essentiel de la formation, c'est de travailler sur soi-même. La plupart du temps, les personnes qui viennent pour une formation à l'accompagnement visent tout de suite comment est-ce qu'on fait avec tel ou tel type de personne. Bon, mais on commence par travailler sur soi-même, travailler sur les attitudes, sur sa propre expérience spirituelle. Et moi, je constate que dans les formations à l'accompagnement, les personnes qui s'y livrent vraiment... avancent dans leur propre vie spirituelle. Et ça, c'est des bons critères. Ensuite, il faut des dispositions pour entrer dans une formation à l'accompagnement spirituel. Être prêt à s'interroger sur sa pratique. Être prêt à se remettre en cause. Être prêt à se faire vérifier. Et de ce point de vue-là, la supervision est quelque chose de très important pour vérifier la juste position dans la relation d'accompagnement, la juste distance et la liberté finalement de l'accompagnateur et la liberté qu'il laisse à l'accompagné. Voilà. Alors, la supervision, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, justement, pour vérifier.
Tous les accompagnateurs sont supervisés et formés ?
Alors, tous les accompagnateurs ne sont pas supervisés et formés, mais il y a à l'heure actuelle un mouvement très fort de demande de formation, d'envoi. Alors, soit des personnes qui, dans un service de vie spirituelle, dans un diocèse ou dans une congrégation, demandent à être formées, disent « mais moi, j'accueille des personnes dans une aumônerie d'hôpital, par exemple, ou de prison », demandent à être formées, et puis les diocèses insistent maintenant sur l'envoi en formation. Dans les formations à Manresse, par exemple, la formation qui va débuter sur 2 ans pour en novembre prochain, elle est déjà complète. Et j'ai déjà des demandes que je ne pourrais pas satisfaire, mais voilà.
Formulé par les diocèses, il y a un besoin de formation qui est nécessaire aujourd'hui, selon vous ?
Ah oui, tout à fait. À cause du caractère délicat de la relation d'accompagnement, et puis parce que autant il y a des accompagnés qui, des personnes qui demandent un accompagnement et qui n'ont pas forcément perçu exactement ce que c'était que l'accompagnement, autant il y a des personnes qui accueillent d'autres, qui écoutent d'autres et qui ont besoin d'apprendre d'abord cette attitude contemplative de l'accompagnateur. Il n'est pas là d'abord pour parler, il est là pour écouter et pour entendre le chemin que le Seigneur est en train de tracer avec la personne. Pour apprendre aussi à écouter spirituellement. Et il ne suffit pas de parler du bon Dieu ou de parler de l'évangile ou de parler de la prière pour qu'on parle spirituellement. Et donc, l'écoute spirituelle, c'est la tâche de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice. Écouter à travers ce que dit la personne, là où le Seigneur est en train de l'orienter vers un peu plus de foi, d'espérance, de charité. C'est vraiment ça l'objectif. Alors du coup, il y a à apprendre à écouter, pour les accompagnateurs, apprendre à écouter les résonances des événements. Pas seulement le récit des événements, mais les résonances des événements du point de vue justement de la recherche de Dieu et du désir de vivre sa relation à Dieu en profondeur.
C'est une attitude et un positionnement vraiment très précis qui nécessite, on comprend, une formation. Vous, en tant que formatrice, sœur Sylvie et Robert, qu'est-ce qui vous paraît primordial dans la formation des accompagnateurs, le point clé, l'élément essentiel sur lequel il faut insister?
Une chose qui est très importante, c'est la liberté. Dans la foi chrétienne, le Christ nous a rendus libres. La lettre aux Galates dit ça de façon très forte. Et il s'agit bien que l'accompagnement n'abîme pas cette liberté. Et effectivement, dans les abus, il y a un mépris ou une violation de la liberté. Alors, la liberté laissée à l'accompagné, elle joue dans la manière dont on va parler, dont on va poser une question ou pas. Moi, je pose très peu de questions. Je crois plus important d'aider la personne à se poser, elle, les bonnes questions. Et puis, aussi, la manière de s'adapter au chemin que fait chacun. L'accompagnateur ou l'accompagnatrice peut proposer quelque chose, et puis, c'est pas ça que la personne va faire. Bon, bah, très bien. Il s'agit aussi que la personne qui accompagne puisse percevoir les obstacles dont la personne accompagnée n'est pas forcément toujours consciente, mais pour l'aider à franchir ces obstacles et à devenir plus libre dans sa relation au Seigneur et du coup dans sa relation à autrui.
La liberté, en tout cas, au cœur de cet accompagnement spirituel, que ce soit au niveau des accompagnants et des accompagnateurs. Merci, sœur Sylvie Robert, de nous avoir éclairé sur l'accompagnement spirituel, que tous les évêques doivent reprendre cette charte cette année émise par la Conférence des évêques de France pour l'adapter à leur diocèse, et donc ce besoin de formation que vous constatez également au centre spirituel jésuite d'Île-de-France. Merci d'être venu en studio ce matin.
Merci beaucoup.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Je vous espère en joie en ce début de journée. Merci d'être avec nous, chers auditeurs et auditrices sur KTO Radio. Ce qui arrive dans les prochaines minutes, la force des artisans ayant un handicap dans la parole aux associations avec l'OCH, la messe depuis Notre-Dame de la Garde à 7h25. Et on poursuit maintenant à 7h14 avec Montre la voie, École Pierre, que l'on écoute maintenant.
Chemin, pas de carte de sac, je suis parti sans rien. Juste l'image d'un pays lointain. Je suis au même endroit qu'hier, je m'en souviens bien. Ce pays désert, je n'en vois pas la fin. Je n'en vois pas la fin. J'ai quitté sans attendre le départ. J'ai de ma joie. Après les combats vient se dessiner un royaume inconnu qui m'est familier. Un immense palais dont tu es la clé. J'ai quitté sans attendre le départ. C'est ton idée de m'appeler autre part.
Te voir. Les artisans à la une du magazine Ombre et Lumière, c'est ce que nous présente Agnès Colantès-Pasco ce matin à son micro, donc l'Office chrétien des personnes handicapées.
La parole aux associations.
Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Marilyn Chaumont, la rédactrice en chef du magazine Ombre et Lumière de la Fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Alors aujourd'hui, Marilyn, vous allez nous parler des artisans handicapés. Alors pourquoi avoir choisi de pousser la porte d'atelier pour raconter l'histoire de ces travailleurs atypiques ?
Les travailleurs que nous avons interrogés ont des handicaps ou des troubles divers, de naissance ou survenus au cours de la vie. Mais tous, à un moment donné, ont été impactés dans leur parcours d'emploi par ce handicap, sans abandonner pour autant leur passion, de la lutherie à l'horlogerie. Aux quatre coins de la France, ce sont Ewen, Claire, Franck, Amélie et Benjamin que nous avons rencontrés. Le fait même de mettre en perspective leur parcours et les aléas liés au handicap ou aux troubles psychiques peut sensibiliser les employeurs à leur situation. Ce qui est frappant, c'est que la passion de ces artisans pour perpétuer un savoir-faire domine leurs éventuelles difficultés. Ils ont su rebondir lorsque des contraintes d'accessibilité ou de licenciement se sont présentées à eux. Amélie Ricard, par exemple, à Avignon, a vu ses collègues quitter un à un l'entreprise familiale après sa maladie qui a handicapé sa jambe et accru sa fatigabilité. Plus généralement, on sait que beaucoup de travailleurs handicapés choisissent le statut d'indépendant aussi parce que l'intégration en milieu ordinaire, en entreprise, est compliquée. Voilà, on voit qu'il y a encore tant à faire pour faire comprendre aux employeurs qu'une personne avec un handicap peut déployer ses compétences et être un vrai levier au cœur de l'entreprise.
Et alors, quels enseignements tirez-vous du parcours de ces travailleurs ?
Le fait même de travailler la matière pour lui donner vie, de créer une histoire à un objet, est source de fierté pour chacun d'eux. Ewen Davio, par exemple, en Bretagne, qui fabrique ses instruments de musique sur mesure, est aujourd'hui reconnue à l'international. Claire Bosch, qui travaille avec exigence le cuir à Belfort, perfectionne chaque pièce avec soin. Ces artisans tirent de leur expérience une attention à l'autre et visent une production plus humaine. Pour Ewen Davio, c'est en créant ces instruments adaptés à certains handicaps. Pour Amélie Ricard, c'est le fait d'embaucher justement plus de personnel handicapé. Cette dernière, qui confectionne des rideaux en perles de buis, un savoir-faire provincial bien particulier, pourrait se contenter aujourd'hui d'un portefeuille de grands clients. Mais sa priorité est de répondre aussi aux particuliers, par exemple à une grand-mère de son village, qui tient à garder une tradition vivante pour ses petits-enfants.
Et alors que le taux de chômage des personnes handicapées reste important, autour de 12%, est-il similaire dans tous les secteurs ?
Un chiffre récent de l'enquête emploi de l'INSEE est intéressant à retenir sur ce point. Beaucoup de familles de milieux favorisés gardent un a priori sur les métiers manuels que nous avons justement mis en valeur dans notre dossier sur ces artisans d'Ombre et Lumière. Voyons voir, les jeunes avec un handicap qui viennent de milieux plus défavorisés sont de fait trois fois plus nombreux à n'avoir jamais travaillé que les autres jeunes du même âge sans handicap. Mais dans les milieux favorisés, le chiffre s'accroît, ils sont cinq fois plus de jeunes à n'avoir jamais travaillé. Ainsi, on voit que dans les milieux moins favorisés, où l'on est moins attaché au diplôme, voilà, cela génère moins de chômage. L'artisanat que nous avons mis en valeur dans Ombre et Lumière est l'une des voies royales pour ces travailleurs, bien que difficile, car ceux-ci sont attachés à leur métier et soucieux de le transmettre. Nos entreprises aujourd'hui, nos employeurs, nos formations ont tout intérêt à embaucher au regard de ces parcours et aussi des études qui montrent que le travailleur handicapé est une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise, notamment en matière de cohésion interne, d'engagement et de résolution de problèmes.
Eh bien, merci Marilyn pour ce partage et on peut retrouver le numéro d'Ombre et Lumière via le site internet och.fr. Je vous souhaite une très belle journée sur KTO Radio.
Merci. Merci Agnès. 7h24, bienvenue et bon début de journée aux auditeurs et aux auditrices qui viennent d'allumer la radio pour ce premier temps de prière qui arrive. On prend la direction de la basilique Notre-Dame de la Garde sous le regard de la Vierge à l'enfant qui veille sur la Méditerranée. Début de la célébration tout de suite avec l'Élode et la messe qui arrive tout de suite.
Et du Saint-Esprit.
Amen.
La paix soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Il est notre Sauveur, c'est lui notre Seigneur, venons-nous de chanter. C'est lui que nous venons rencontrer ce matin. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous, frères et sœurs ici présents, et vous qui êtes avec nous par l'intermédiaire de la télévision. Nous continuons à prier pour la paix fragile entre Israël et l'Iran, aux dernières nouvelles ce matin, paix très fragile, que le Seigneur renforce cette paix. Et puis les uns et les autres, nous avons des intentions particulières au fond de nos cœurs, nous les présenterons au Seigneur. Nous allons rentrer dans la prière par le chant des psaumes.
Page 59, psaume 107. Éveillez-vous, harpe cithare, que j'éveille l'aurore.
Mon cœur est prêt, mon Dieu, je veux chanter, jouer des hymnes. Ô ma gloire, je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes dans tout pays. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé. Je triomphe, je partage si cher. Je divise la vallée de Soukhot. Sur Édom, je pose le talon. Sur la Philistie, je crie victoire.
Qu'il nous conduira dans la ville forte. Qu'il nous mènera jusqu'en Édom.
Sinon toi, Dieu qui nous rejette et ne sort plus avec nos armées.
D'Isaïe. Le Seigneur m'a comblé de joie, il m'a revêtu de sainteté.
Je tressaille à cause du Seigneur, mon âme exulte à cause de mon Dieu.
245. Alléluia, chante mon âme la louange du Seigneur. Chante mon âme la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. S'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périsse leur projet. Qu'il renferme.
Il n'aura jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés.
Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur protège l'étranger.
Il soutient la pauvre et l'enfermant. Il garde les pauvres et méchants.
D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu aussi, on pour toujours.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen.
Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Amen.
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit : Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant. Et l'hérité de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis, il le fit sortir et lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance.
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance.
Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance.
Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance.
Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance.
En moi comme moi en vous, dit le Seigneur, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits.
Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner de fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Méfiez-vous des faux prophètes. Le Seigneur nous met en garde contre le danger de se laisser attirer par des faux prophètes. C'est-à-dire par cette façon de vivre qu'il nous annonce et qui semble plus facile et immédiate, mais qui en réalité dévore notre vie comme un loup rapace. Les hommes, c'est-à-dire nous, se laissent attirer souvent par une vie en apparence qui paraît normale, mais qui en réalité a peu d'amour. Jésus nous rappelle que les tentations du monde se présente sous un aspect flatteur, sous un aspect raisonnable, et qu'ainsi, elles sont capables d'en attirer plusieurs, et nous-mêmes aussi. C'est justement la raison pour laquelle elles sont si dangereuses. Mais me direz-vous, comment les reconnaître ? Comment les reconnaître ? Il y a un critère qui aide à reconnaître les prophéties fausses. Les prophéties fausses, ce sont toutes ces pensées et ces suggestions qui rabougrissent notre cœur, notre vie, les privant de leurs fruits, qui serait bon autant pour soi-même que pour les autres. Si nos cœurs sont pleins de nous-mêmes, ils ne pourront pas donner des fruits d'amour. Au contraire, en coupant les branches de l'égoïsme et en laissant l'Évangile en nous, nous portons les fruits des œuvres bonnes. Dans un texte magnifique dans les Galates au chapitre 5 et que j'aime beaucoup, saint Paul, après avoir énuméré les œuvres de la chair, propose une liste de 9 fruits de l'esprit. Et cette liste, je la conseille à la crypte aux personnes qui viennent me voir et qui ne savaient pas trop comment se confesser. Mais je leur dis, ou parfois nous les prenons ensemble, nous prenons ce passage et puis je vous invite, comme il m'arrive de le faire pour moi, de vous interroger à travers ces fruits de l'esprit. Voilà un bel examen de conscience à faire. Et les fruits de l'esprit, nous le savons, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, l'humilité. Et le dernier de tous, la maîtrise de soi. présentons maintenant au Seigneur nos intentions de prière. Le Seigneur fera briller la justice comme la lumière.
De notre foi, béni sois-tu. Toi qui nous appelles des ténèbres à la lumière, prends pitié de nous. Sois-tu. Guéris-nous de l'incrédulité. Prends pitié de nous. Tu nous as rassemblés en un seul corps. Béni sois-tu. Garde-nous de séparer ceux que tu as unis. Prends pitié de nous. Tu donnes la force dans la tentation, la patience dans l'épreuve. Béni sois-tu. Que notre vie soit louange de grâce. Prends pitié de nous.
Accueille, Seigneur, nos prières et ce que nous venons de te demander avec toute la force de notre foi, dans ton amour pour nous, pour l'Église et pour le monde. Daigne nous l'accorder, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles.
Amen.
Thank you.
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons.
Sainte, sainte,